Vous écoutez On lit pour vous.
Quand tout s'effondre dans notre tête. Une chronique de Nicolas Vandal, parue le 20 mai 2026 dans le magazine Fugue. J'ai réalisé récemment que j'avais atteint le bord du gouffre. Je me promenais dans la rue quand je me suis soudain mis à sangloter toutes les larmes de mon corps. C'est comme si quelque chose en moi venait de franchir une limite que j'essayais d'ignorer depuis beaucoup trop longtemps. Puis, des pensées suicidaires très intenses m'ont envahi, et je n'arrivais pas à les arrêter. Au fond, je n'avais pas envie de mourir, je ne supportais plus de vivre avec ma tête. C'est là que j'ai compris, pour de vrai, que je n'étais pas simplement stressé ou fatigué. Je n'allais vraiment pas bien. Plusieurs personnes ont été surprises quand je leur en ai parlé, parce que j'avais toujours l'air de bonne humeur. C'est ce qui rend la souffrance psychologique si difficile à reconnaître, autant pour les autres que pour soi-même. Elle ne ressemble pas forcément à l'image qu'on s'en fait, celle d'une personne incapable de sortir de son lit. On peut continuer à fonctionner pendant des années avant de réaliser qu'on est en train de s'écrouler intérieurement. Je travaillais, je gérais mon entreprise, j'avais 1000 projets et une vie sociale bien remplie. Le problème, c'est qu'à force de fonctionner malgré tout, on finit par normaliser son propre mal-être. On s'habitue à vivre fatigué et anxieux. Fonctionner, ce n'est pas la même chose qu'aller bien. Même quand ça n'allait pas, il me suffisait parfois de quelques minutes pour retrouver le sourire. Je ne le faisais pas consciemment. C'était un mécanisme de protection. Le cerveau enfouit ce qui fait trop mal pour qu'on puisse continuer à avancer. Sur le moment, j'avais l'impression que ça allait mieux. En réalité, tout continuait de s'accumuler. Mais les émotions finissent, tôt ou tard, par sortir, et rarement de la bonne façon. Je suis devenu irritable, impatient, froid et difficile à vivre. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Aujourd'hui, je réalise à quel point on peut devenir étranger à sa propre souffrance, au point de faire du mal autour de soi, sans même s'en rendre compte. Ce qui est ironique, c'est que j'ai un baccalauréat en travail social. J'ai passé des années à encourager les autres à aller chercher de l'aide avant d'atteindre un point critique. Mais quand il s'agit de moi, je deviens mon propre bourreau. J'ai longtemps cru que je pouvais tout absorber seul. Si j'ai fini par faire la démarche, c'est parce que continuer ainsi était devenu dangereux. En psychothérapie, j'ai réalisé que beaucoup de mes réactions provenaient de traumatismes d'enfance que je croyais réglés ou que j'avais enfouis si profondément que je ne les voyais plus. Je n'aurais pas pensé qu'ils avaient encore autant d'emprise sur moi. Je travaille fort à les guérir, mais le plus difficile, ce n'est pas de consulter. Le plus dur, c'est d'accepter que prendre conscience de nos torts, consulter et changer n'efface rien de ce qui s'est passé. Les mots qui ont blessé ont quand même été dits. Les réactions qu'on n'aurait pas dû avoir ont quand même eu lieu. Le regret, aussi sincère soit-il, ne suffit pas toujours à réparer ce qui s'est fragilisé. Quand on a fait du mal aux gens qu'on aime, même en pleine détresse, il reste des traces impossibles à effacer. On peut le savoir intellectuellement, mais le ressentir, c'est autre chose. Se soigner, c'est au moins décider que les dégâts s'arrêtent là. Je ne cherche pas à jouer la victime. Je pense simplement qu'il y a une différence entre expliquer et justifier. Comprendre l'état dans lequel j'étais ne sert pas à me déresponsabiliser. Ça sert surtout à comprendre comment je me suis rendu à un point où je ne me reconnaissais plus moi-même. Je réagissais de manière colérique, souvent pour rien, principalement avec les personnes que je considérais naïvement comme acquises. Avec le recul, c'est probablement ça qui me fait le plus mal. Quand on est intérieurement épuisé depuis trop longtemps, on finit généralement par décharger notre trop-plein sur les gens avec qui on se sent le plus en sécurité, comme si le lien allait tenir quoi qu'il arrive. Ce n'est ni réfléchi, ni volontairement méchant, mais on ne réalise l'ampleur des dégâts qu'une fois la limite franchie. Des proches me disent que je suis une bonne personne, une partie de moi veut les croire, mais l'autre n'en est pas entièrement capable. La culpabilité prend encore trop de place. Quand elle m'envahit, je finis par me résumer à mes pires moments, comme si c'était tout ce que j'étais. J'essaie malgré tout de ne pas me détester. J'arrive davantage à me rappeler qu'il n'y a rien de constructif à passer sa vie à se haïr. Le regret peut rendre plus conscient, plus attentif à ce qu'on fait. La haine de soi, elle, finit surtout par détruire ce qu'il reste de bon. Je ne sais pas encore exactement comment avancer avec tout ça, mais pour la première fois depuis longtemps, je commence à voir une issue. J'apprends à mieux prendre soin de moi et de mon monde, à reconnaître mes émotions sans les minimiser, à assumer mes gestes sans m'auto-flageller et à accepter de me faire aider. J'ai bon espoir d'être enfin bien dans ma tête. Si vous avez des pensées suicidaires, si vous êtes préoccupé par un proche, une proche, ou si vous souhaitez recevoir de l'aide ou des conseils, 1-866-APPEL. 1-866-277-3553. Disponible 24/7, gratuit et confidentiel. C'était « Quand tout s'effondre dans notre tête », une chronique de Nicolas Vandal, parue le 20 mai 2026 dans le magazine Fugue.
Stimuler l'odorat peut-il être bénéfique pour le cerveau? Un texte de Colleen Zegrand et Benoît Jobin, paru le 11 mai 2026 dans La Conversation. Une simple odeur diffusée pendant le sommeil peut-elle améliorer votre odorat, votre mémoire ou même la qualité de votre sommeil? De nouvelles recherches explorent les bienfaits de la stimulation olfactive passive. Une personne sur cinq présente une perte ou une diminution de l'odorat. Celle-ci peut survenir à la suite de différentes conditions, dont une infection respiratoire, une sinusite, une infection de type COVID-19, un traumatisme crânien, une maladie neurodégénérative ou une exposition à des produits chimiques. Invisible, elle réduit fortement la qualité de vie. Les personnes touchées peuvent s'isoler par crainte de sentir mauvais, ressentir de l'anxiété, perdre l'envie de manger ou modifier leur alimentation. La sécurité quotidienne est aussi compromise, puisque détecter la fumée, le gaz ou des aliments avariés devient plus difficile. Enfin, cette perte peut nuire à certaines professions, comme chef, parfumeur ou sommelier, pour qui l'odorat est un véritable outil de travail. Le traitement principal de la perte olfactive consiste en un entraînement olfactif. Tous les jours, matin et soir, le protocole consiste à s'exposer à des odeurs différentes pendant environ 30 à 40 secondes par odeur. Les limites de la stimulation olfactive. Bien que les effets bénéfiques de la stimulation olfactive soient documentés par plusieurs études, le taux d'abandon est élevé. Effectivement, pour être efficace, l'entraînement olfactif requiert 2 séances par jour pendant 3 mois minimum. Cette routine répétitive est contraignante et certains abandonnent avant d'en voir les bénéfices. Pour combler cette lacune, des chercheurs ont proposé une solution simple et accessible. La stimulation olfactive passive. Elle consiste à exposer le cerveau à des odeurs variées de manière continue, même durant le sommeil. Un remodelage du cerveau. Sans effort et sans médicaments, cette pratique nocturne intrigue de plus en plus les neuroscientifiques en raison de ses bienfaits. En effet, Certaines études montrent une amélioration de la mémoire, une meilleure qualité du sommeil et même des changements anatomiques au niveau cérébral. Ces effets reposent sur la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à se remodeler en fonction des expériences et apprentissages. En sentant des odeurs, nous activons et stimulons le système limbique du cerveau, une région clé qui régule les émotions et la mémoire. Malgré un champ de recherche en pleine expansion, cette approche demeure peu connue du grand public. Ses effets bénéfiques sur le cerveau pourraient améliorer la qualité de vie de nombreuses personnes, d'autant plus que les plaintes de mémoire, de sommeil ou d'odorat augmentent avec l'âge. Un booster de mémoire. L'odeur d'une tarte au sucre sortant du four peut suffire à raviver un souvenir d'enfance chez grand-mère. Véritable Madeleine de Proust, ce phénomène illustre le lien intime entre l'odorat et la mémoire. Une étude publiée dans Frontier in Neuroscience a exposé un groupe d'adultes en santé, âgés de 60 à 85 ans, à une odeur différente chaque nuit, soit 7 odeurs en rotation sur une semaine pendant 6 mois. Les résultats montrent une amélioration de 226% de leur mémoire verbale comparativement à un groupe d'adultes non exposés. Au niveau cérébral, les chercheurs ont rapporté une augmentation du faisceau inciné gauche, une sorte d'autoroute de communication entre les régions du cerveau impliquées dans la mémoire et l'apprentissage. Le fait que cette structure soit positivement modifiée par la stimulation olfactive passive laisse sous-entendre que les effets ne seraient pas qu'éphémères. Ainsi, la stimulation olfactive pourrait agir comme un véritable booster pour la mémoire des personnes âgées. Cependant, bien qu'encourageants, ces résultats nécessitent d'être confirmés par d'autres études, notamment en raison de la petite taille de l'échantillon. Bienfaits sur le sommeil. Les odeurs et le sommeil sont intimement liés, et ce depuis des millénaires. Déjà, dans l'Égypte ancienne, nos ancêtres brûlaient de l'encens de myrrhe pour protéger les dormeurs des cauchemars. Aujourd'hui, la recherche suggère que la stimulation olfactive pratiquée au moment de l'endormissement et durant la nuit pourrait effectivement améliorer le sommeil. Le sommeil est crucial pour le bon fonctionnement de notre santé physique et mentale. Au sens large, le sommeil permet à notre corps de récupérer, de réguler les émotions et d'éliminer les déchets métaboliques accumulés durant la journée, ainsi que soutenir le système immunitaire. C'est également un moment clé pour consolider les souvenirs en transformant les informations fraîchement apprises en mémoire à long terme. Or, en vieillissant, notre sommeil devient plus fragmenté, contient plus d'éveil et nous rapportons généralement un sommeil de moindre qualité. Une méta-analyse regroupant plusieurs études démontre que certaines odeurs peuvent améliorer la qualité du sommeil des personnes insomniaques. La lavande, l'écorce d'orange et la rose sont les odeurs les plus étudiées, bien que leurs effets thérapeutiques respectifs restent encore peu connus. Dans la même lignée, une étude pilote a montré que la diffusion nocturne de l'odeur de lavande pouvait améliorer à la fois le sommeil perçu et certains indices objectifs du sommeil mesurés par EEG. Comparativement à une nuit sans odeur, la nuit avec odeur de lavande était associée à un meilleur bien-être au réveil, à une diminution des perturbations du sommeil, ainsi qu'à une augmentation du sommeil lent profond, N3, et de l'activité delta, un marqueur de sommeil plus profond et récupérateur. Ces résultats restent préliminaires, mais suggèrent qu'une stimulation olfactive passive durant la nuit pourrait favoriser un sommeil de meilleure qualité. Par où commencer? Pas besoin d'équipement sophistiqué pour s'initier à la stimulation olfactive passive. Voici quelques pistes. Sentir un parfum, des huiles essentielles, chaque matin ou soir sur les vêtements. Utiliser un diffuseur ou un parfum d'ambiance dans votre pièce de vie. S'exposer à des odeurs différentes. Sentir au minimum 4 odeurs différentes, chaque type durant environ 30 secondes dans chaque narine, 2 fois par jour, pendant 3 à 6 mois. Pour préparer notre corps à s'endormir, on tamise la lumière, on cherche le silence, on enfile des vêtements amples. On mobilise, sans même s'en rendre compte, presque tous nos sens. Alors, pourquoi ne pas y ajouter une odeur apaisante avant de fermer les yeux? C'était « Stimuler l'odorat peut-il être bénéfique pour le cerveau? » Un texte de Colleen Zegrand et Benoît Jobin, paru le 11 mai 2026 dans La Conversation.
Tout savoir sur les sargasses avant de partir en voyage. Un texte de Brittany Sullivan, paru le 9 mai 2026 dans la presse. Sur de nombreuses plages de la mer des Caraïbes et du golfe du Mexique, des amas de sargasses échouées sur le sable dérangent les voyageurs. D'avril à septembre, quand les plages sont recouvertes de sargasses qui sont chauffées par le soleil et qui finissent par pourrir et se décomposer en libérant des odeurs qui ne sont pas toujours très agréables, eh bien, on n'a plus les belles plages de sable blanc que les touristes aiment, remarque Éric Tamignot, professeur en aquaculture au Cégep de la Gaspésie et des Îles. Les sargasses sont des macro-algues brunes qui flottent à la surface de l'eau et qui n'ont pas besoin de s'accrocher au fond au cours de leur cycle de vie, ce qui leur permet de se déplacer. Auparavant, on avait juste un amas de sargasses coincés dans des courants circulaires dans la mer des sargasses. Or, depuis quelques années, on a un deuxième phénomène de prolifération de sargasses au sud de la mer des sargasses. Il s'agit de la ceinture de sargasses. Ces sargasses sont amenées vers l'ouest, entre l'Afrique de l'Ouest et l'Amérique centrale, pour aller jusqu'au golfe du Mexique, explique M. Tamignot, qui conclut « En général, les algues, quand elles prolifèrent, c'est souvent à cause de 2 facteurs, la température et la disponibilité de nutriments, en particulier l'azote et le phosphore. » Concernant les nutriments, les sargasses de la ceinture de sargasses prolifèrent parce qu'il y a des apports en fertilisants d'origine naturelle et d'origine humaine, poursuit M. Tamignot. Les changements climatiques font en sorte qu'il y a des remontées d'eau profonde riches en nutriments et ça les aide à devenir plus nombreuses. Et puis, quand elles s'approchent des côtes de l'Amérique, elles se retrouvent à nouveau fertilisées par de grands cours d'eau. Où voyager pour éviter les sargasses? les plages de la mer des Caraïbes et du golfe du Mexique ne sont pas toutes touchées de la même manière par les sargasses. Certains endroits sont davantage affectés, d'autres moins. La Riviera Maya, au sud de Cancun, au Mexique, et Punta Cana, en République dominicaine, ce sont deux destinations qui sont souvent très touchées, fait savoir Anthony Cirino, président de l'agence de voyage Club Voyage Universel. On trouve aussi des sargasses sur des plages de la Jamaïque et du Costa Rica. Pour éviter les sargasses, on peut aller à Costa Mujeres, au nord de Cancun. Si on veut aller en République dominicaine, il y a la Romana, Samana, Puerto Plata. Ça dépend également de notre budget, puisqu'il y a des destinations comme Curaçao, dans le sud de la mer des Caraïbes, mais il y a moins d'hôtels, moins de vols et c'est plus cher, fait remarquer M. Cirino. En Jamaïque, la ville de Negril peut être une autre option intéressante pour les amoureux de la plage. Évidemment, si on veut vraiment écarter la problématique des sargasses, on va du côté de l'océan Pacifique, donc du côté ouest du Panama, du Costa Rica, du Mexique, à Puerto Vallarta, Los Cabos ou même à Mazatlan, énumère Cynthia Laparé-Labelle, conseillère à l'agence de voyage Club Voyage Raymond de Potvin. Une odeur incommodante. Au-delà du côté inesthétique des sargasses échouées sur les plages, l'odeur de leur décomposition est particulièrement dérangeante. Les accumulations de sargasses sur les plages où il fait 30 degrés Celsius peuvent rentrer rapidement en putréfaction. C'est là que ça devient problématique. Ça va émettre du sulfure d'hydrogène, du H2S, un gaz qui donne cette odeur d'œuf pourri et qui est dangereux, explique Tristan Le Goff, chercheur industriel et chargé de projet en aquaculture chez Mérinov. Les symptômes associés à cette molécule sont notamment des irritations à la gorge et aux yeux, des maux de tête, des nausées et des malaises. Une surexposition au sulfure d'hydrogène peut même être mortelle. Par conséquent, il est important d'éviter la plage s'il y a des tas de sargasses en décomposition et de privilégier d'autres activités. Profiter de son voyage même avec des sargasses. Même si certaines plages sont plus touchées par la prolifération de sargasses, il peut y avoir des moments durant lesquels il y a moins d'accumulation. Il est possible que certains jours, il n'y ait absolument rien et que la plage et l'eau soient incroyables. Il faut être patient. C'est la nature et on doit vivre avec ça, rappelle Anthony Cirino. Des efforts de nettoyage des plages contribuent d'ailleurs à permettre aux voyageurs de profiter pleinement des lieux. Des barrières sont même parfois installées dans l'eau pour éviter, le plus possible, que des sargasses s'échouent sur le sable. Pour les jours durant lesquels la plage est moins invitante, on peut aller à la piscine et au jeu d'eau. Moi, je suggère de faire des excursions. Si on se trouve à la Riviera Maya, c'est le temps de visiter des pyramides, de plonger dans des cénotes. Il y a tellement de choses à faire, soutient Anthony Cirino. C'était « Tout savoir sur les sargasses avant de partir en voyage », un texte de Brittany Sullivan paru le 9 mai 2026 dans la presse.
Neuroinclusion, comment JP Morgan Chase revoit le recrutement et la rétention. Un texte de Sonia Singh, paru le 15 avril 2026 dans Les Affaires. JP Morgan Chase cible dorénavant des talents inexploités grâce à sa stratégie de neuroinclusion, affirme Niamoussi Lee, directrice générale des stratégies de neuroinclusion de l'entreprise. La croissance et le succès à long terme dépendent de notre capacité à repérer, attirer, développer et fidéliser des employés talentueux tout en favorisant un milieu de travail inclusif, souligne-t-elle. Selon une enquête de Statistique Canada menée en 2022, Seulement 33 % des adultes autistes âgés de 20 à 64 ans ont indiqué occuper un emploi, ce qui reflète la persistance d'obstacles à l'embauche, dans la conception des milieux de travail et dans l'avancement professionnel, plutôt qu'un manque de compétences. JP Morgan Chase élargit ses efforts de recrutement par l'entreprise de partenariat avec des universités et des organismes communautaires, en ciblant des candidats pour divers postes et à différents niveaux de carrière, y compris des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du développement. L'entreprise offre un point d'entrée structuré au moyen de stages rémunérés avec des mesures de soutien intégrées, suivies de parcours clairs vers des postes permanents dans plusieurs secteurs d'activité. Miser sur des forces uniques pour produire des résultats renforce nos équipes et contribue à faire progresser nos activités, ajoute-t-elle. Avant l'embauche, les pratiques d'entrevue évoluent également afin de mieux refléter les exigences des postes. Un processus d'entrevue neuro-inclusif met l'accent sur les compétences et les aptitudes des candidats plutôt que sur des codes sociaux traditionnels comme les banalités d'usage ou le contact visuel, explique Niamoussi Lee. Des questions claires et directes ainsi que des évaluations pratiques remplacent le recours aux liens conversationnels. Des recherches du Centre des compétences futures indiquent que cette approche améliore les résultats pour les candidats neurodivergents en réduisant l'anxiété liée à la divulgation et en harmonisant davantage l'évaluation avec les exigences du poste. Les ajustements au milieu de travail demeurent essentiels à la rétention, notamment des espaces de travail calmes, un éclairage modifié et des outils de communication écrite adaptés aux besoins de chacun. La technologie joue un rôle croissant. Niamoussi Lee cite les grands modèles de langage, LLM, comme un outil concret, notant qu'ils peuvent aider à décomposer des projets complexes en étapes gérables, à clarifier les attentes et à soutenir la productivité au quotidien, particulièrement pour les employés qui bénéficient d'une communication structurée et explicite. La culture du milieu de travail est renforcée par des ressources en santé mentale, des processus d'accommodement et des groupes ressources d'employés. L'organisation dispose d'un réseau de plus de 32 000 employés répartis dans 36 sections à l'échelle mondiale, favorisant le sentiment d'appartenance, le partage d'informations et la sensibilisation. Il est judicieux sur le plan des affaires d'associer le bon talent à la bonne tâche en plaçant les compétences d'une personne dans un rôle à valeur ajoutée où elle pourra s'épanouir, affirme Niamoussi Lee. Créer un milieu de travail neuro-inclusif commence par l'établissement d'une culture où chacun se sent valorisé, soutenu et compris. C'était Neuro-inclusion, comment JP Morgan Chase revoit le recrutement et la rétention. Un texte de Sonia Singh, paru le 15 avril 2026 dans Les Affaires.